98.
Ouais, elle est go.
C'était 2005, Naipi Joe a remplacé Rangoon.
Bah non.
Donc on arrive à la fin de cette émission, on est à 90, à 19h pile. Je vais rendre l'antenne tout de suite à la Vita et Bella. Merci à eux pour leur émission. Tout de suite.
Bravo,
merci beaucoup.
Bravo à mes deux équipes du jour, les Fabuleuses, qui malheureusement n'ont pas eu leur point. Et de l'autre côté, les Weiji. Bravo à vous. Vous passez donc en finale ce jeudi. On se retrouvera à cette heure-là. Je remercie encore une fois les parrains et marraines de mon émission, la cave des Gamnotes, la menuiserie rustique Elie et Mabas. Vas-y, merci beaucoup pour leur soutien. Tout de suite après, Vita et Bella avec Sylvaine et Sylvain. Restez avec nous. Ouais, c'est le même prénom que toi. Ouais. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était Frostan. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.
L'heure vous est donnée par le garage Balcon du Jura, votre agence Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Carnaval, vous êtes dans l'émission La Vita et Bella, et nous sommes ensemble de 19h à 20h, bienvenue à tous, bonsoir Sylvaine.
Bonsoir Sylvain, j'espère que tu vas bien sur les ondes de Radio Carnaval.
Une très belle journée, magnifique, et avant d'entamer cette émission du mardi, eh bien, on remercie nos sponsors, la laiterie fromagerie de Beaume, ainsi que le Destock Factory Outlet à Orbe. Ce soir, Sylvaine, nous allons parler train. Une passion, wow. Une passion qui est devenue le deuxième métier de notre invité de ce soir. Et après une activité de 34 ans au sein de la police de sûreté vaudoise. Donc, on invite ce soir un collègue et c'est un plaisir de le recevoir. Il a entrepris une formation de pilote de train afin de réaliser, je crois, un rêve d'enfant. Donc, sans plus attendre, on accueille notre invité de ce soir. Bonsoir Eric Geiger.
Bonsoir Sylvaine, bonsoir Sylvain, merci de...
On te remercie beaucoup pour ta présence ce soir et on se réjouit de passer cette heure avec toi, Sylvaine.
Bonsoir Eric et puis surtout merci d'avoir fait le trajet pour monter jusqu'à Sainte-Croix que tu connais juste au passo.
Mais effectivement, je dois dire que c'est une belle découverte. En fait, Sainte-Croix, je connaissais simplement pour traverser le bourg pour aller rejoindre mes beaux-parents à Fleurier. Et peut-être deux, voire trois fois dans l'exercice de mes fonctions d'inspecteur de police.
Ok, merci pour la précision. Et puis Eric, alors moi j'aimerais quand même savoir, parce qu'effectivement ton parcours est quand même très atypique. Et puis j'aimerais savoir cette passion des locomotives, des gares, des trains, de ce monde ferroviaire en général, ça vient d'où, depuis quand? Raconte-nous.
Alors exactement... Je ne peux pas vous le dire, mais j'ai quand même ma petite idée. Il y a très longtemps, c'est-à-dire en 1959, alors que j'avais 4 ans, ma maman est tombée malade et elle a été hospitalisée à Lézin, dans un sanatorium à l'époque. Elle avait un problème à une vertèbre. Et voilà, ma sœur, avec mon papa, ma sœur qui allait à l'école, est resté à Morges avec une fille au père et moi, j'ai eu la chance d'aller à Peseux chez mes grands-parents. Mon grand-papa était chef au tram. Et là, eh bien, que faisait la grand-maman avec son petit bout de chou de 4 ans? Eh bien, elle allait en tram. Et on faisait Neuchâtel, Corcel, Corcel, Peseux, Peseux, Neuchâtel, un nombre de fois incommensurable.
Okay.
Et c'est peut-être pour ça que j'ai eu, je ne sais pas, une petite lumière qui m'a dit « Ah, mais disons, c'est chouette !» Et surtout, ce qui était génial, c'est quand j'accompagnais mon grand-papa, alors qu'il pilotait la 80. La 80, c'était les nouvelles machines. Nouvelle machine construite en 49.
À l'époque, oui.
Mais à l'époque. Et sinon, il y avait les vieux trams, comme je les appelais. Alors là, c'était des 70. Mais les 80, ce qui était absolument génial, c'est qu'elles avaient déjà des portes automatiques et le pilote était assis. Excellent. Mais c'était génial. C'était et moi, je me tenais à côté de mon grand-papa. Elle, c'était mais, la panacée pour moi.
Alors, je pense que ça, c'est des souvenirs qui sont impérissables. Effectivement, magnifique.
Absolument.
Magnifique.
C'est vrai qu'on entend dans ta voix et dans ton envie de nous en parler ben, une certaine émotion et puis une motivation incroyable par rapport à ces trains. Mais on a envie de te demander, même si on y reviendra durant l'heure qu'on va passer ensemble, ben, tu es passionné des trains depuis toujours, mais finalement, tu as embrassé une activité au sein de la police de sûreté et que je sais que tu as adoré ce métier d'inspecteur à la police de sûreté. Alors finalement, mais pour quelles raisons n'en as-tu fait ton métier directement et ce métier pour ta vie?
Alors, ma première idée était effectivement de devenir mécanicien de locomotive. Pour cela, j'ai commencé un apprentissage de mécanicien chez Bobst, très bonne maison à l'époque. J'ai terminé cet apprentissage 4 ans après. Durant celui-ci, j'ai fait la connaissance d'un copain d'apprentissage qui est devenu un bon pote. Et ce pote, eh bien, lui-même a fini mécanicien CFF. Son papa était mécanicien CFF. Son frère était aussi mécanicien CFF. Et moi... pour diverses raisons, je ne sais pas, peut-être familiale, l'envie de devenir mécanicien CFF a diminué.
A fondu au soleil, ouais, hein, comme la neige au soleil. Ouais. Okay.
Alors voilà, j'ai fini mon apprentissage, Et là, je me suis dit, ah, c'est pas ma tasse de thé, il faut que je fasse autre chose. Heureusement, j'ai pu rester chez Bob's, ce qui n'était pas forcément acquis à l'époque, mais la vie d'usine ne me plaisait pas du tout. Mais absolument pas, c'était la cata. 20 ans, qu'est-ce qui se passe à 20 ans?
Ça dépend, on peut rencontrer...
La valse à Milton.
Voilà.
On peut aller à l'école de recrue.
Avant, oui.
Et d'ailleurs, mon papa m'a dit, « Ah, ben, ça te fera beaucoup de bien d'aller à l'école de recrue, tu verras, ça va un petit peu te dresser. » Bon, alors je suis parti à l'école de recrue en 1975. Et là, bingo, malheureusement, ça m'a plu. Et en 1977, après avoir fait plusieurs périodes militaires, j'ai fini lieutenant à la compagnie police routine. Ça, c'est déjà une chose. Et puis, professionnellement, je me cherchais toujours. En fait, j'avais fait un petit peu ces écoles militaires pour éviter l'usine. Ça, c'était déjà une tactique. Mais je me cherchais. Et un jour, dans la feuille de la vie de Lausanne, un article. Ma maman me dit, « Ah, dis donc, t'as vu ?» J'ai vu que dans la feuille d'avis, il y avait la police de sûreté vaudoise qui cherchait des inspecteurs. Ah, j'ai dit, « Tu crois, ce serait pour moi ?» Elle m'a dit, « Ouais, c'est pour toi. »
Excellent.
Effectivement, moi, j'avais besoin d'un travail qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur. Mais moi, gratte-papier pendant 8 heures derrière un bureau, j'aurais jamais pu. D'accord ? Alors j'ai dit, bon, ben écoute, pourquoi pas ? Puis j'ai bossé pour passer les examens. J'ai passé les examens, j'ai été pris. 9 inspecteurs, une inspectrice en 1979, une année d'école. Et c'est comme ça que je suis arrivé inspecteur de police.
Qu'est-ce qu'elle a eu raison, ta maman qui et on peut la saluer parce qu'elle a 101 ans.
Oui.
Eh bien, elle avait bien raison et puis elle avait vu juste pour toi.
Elle avait vu extrêmement juste parce qu'en fait, je n'ai jamais regretté ce choix. Ce métier
justement,
est passionnant, il est varié, il est très prenant.
Si j'ose me permettre, mais là, tu avais trouvé ta voie.
J'avais trouvé ma voie, absolument.
Est-ce que je peux juste te demander, Eric, comment s'appelle ta maman, son prénom ?
Pierrette.
Alors, on salue Pierrette, hein, au passage.
Ah oui.
Parce que franchement, elle a une intuition incroyable. Les mamans, souvent, ont quand même pas mal d'intuition. Hein. Il faut les écouter.
Voilà,
c'est
voilà,
ça.
Il faut les écouter.
Toi, tu l'as écouté.
Exactement.
C'est génial. Extra, Eric. Et puis, en fait, mis à part ça, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire ou... Je vois que tu étais parti pour quelque chose.
Non, c'est vrai que ces 34 ans que j'ai passé à la police de sûreté, je ne les ai pas vus défiler.
Tellement c'était chouette.
C'était, ouais, c'était ma voix. Mais la voix du Leb n'était pas forcément complètement oubliée.
Oui, parce qu'en fait, ben voilà, t'as, pendant 34 ans, tu étais engagé sur ta bonne voie, mais tu as maintenu quand même un lien avec les trains, que ce soit par le biais de maquettes, de voyages en train, de clubs ou d'associations, de choses comme ça. J'imagine que tu as gardé un petit pied.
Oui,
dans
alors,
train.
Bien sûr, j'ai gardé un petit pied dans les trains. Déjà, quand je me rendais à Neuchâtel, parce que c'est clair qu'on avait créé un lien avec mes grands-parents, et notamment avec ma grand-maman très fort, et jusqu'à mon adolescence, je me rendais à Neuchâtel en train, bien sûr. À l'époque, je connaissais le nom de toutes les locomotives, hein, la Crocodile, etc., mais par leur nom spécifique, c'est 6-8, par exemple. Et c'est vrai qu'à la maison, mon papa avait commencé une maquette. Maquette qui faisait quand même 6 mètres carrés, que j'ai continué, c'était dans une pièce complète, hein, que j'ai continué, mais que je n'ai jamais terminé. Voilà.
Elle est où cette maquette ? Elle n'existe plus ?
Elle existe, bien sûr qu'elle existe.
Ah, donc ça, c'est un petit challenge, éventuellement.
Ça reste toujours un challenge, effectivement. Elle est toujours dans la maison de mes parents à Morges. J'ai continué d'acheter un petit peu de matériel roulant. Mais ben voilà, avec la nouvelle technologie, on a de l'analogique. Et maintenant... Eh bien, l'analogique, on a passé au digital. Et avec le digital, je devrais modifier toutes mes petites locomotives. J'en ai à peu près entre 15 et 20. Et j'ai plus le temps. Voilà.
Okay. C'est incroyable, c'est un retraité qui n'a plus le temps.
Non, ben, effectivement.
Mais ils ont tous jamais le temps.
Non, le retraité n'a plus une minute, il n'a plus une seconde. Bon, c'est vrai que j'avoue que j'ai laissé tomber le ferroviaire pour d'autres occupations, c'est vrai. Alors, déjà, époux, hein, c'est déjà quelque chose. Papa, j'ai un fils de 40 ans, inspecteur de police avec tout ce que ça implique, moniteur d'éducation canine, président de club cynologique pendant, ouf, mon Dieu, 15 ans, à la base de 160 heures d'instruction de police judiciaire au profit des trois premières écoles de police militaire professionnelle, conseiller général, greffier de la commission de police de mon village. J'ai en plus eu le grand plaisir d'avoir deux super compagnons, Jeff, un golden retriever pendant 15 ans, et Gibbs, un berger allemand pendant 12 ans, que j'ai perdu il y a 6 mois. Ça, on n'en parle pas parce que je pleure toujours. Et en plus, maintenant, j'ai la chance d'être grand-papa d'un garçon de 8 ans et d'une petite fille de 6 ans.
Comment ils s'appellent tes petits-enfants, Eric ?
Sean, pour le garçon, et Lina, pour la fille. Lina, L-E-E. N-A.
Moi qui te connais en dehors de l'activité professionnelle, qu'on a aussi partagé, notamment d'activité militaire, t'étais un grand-papa bien occupé, quoi.
On peut dire ça, oui, ouais. Bien occupé. Ma femme le dit aussi.
C'est pour ça que... je me rappelle de ton départ à la retraite, de cette soirée qu'on avait partagée ensemble, mais avec aussi bien d'autres, lors de ton départ à la retraite. Je ne pense pas que c'est ce soir-là que tu as décidé de te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire par la suite pour m'occuper. Donc, quand est-ce que tu as décidé, bien avant certainement, de refaire une formation, de te remettre sur les bancs d'école pour faire cette formation de pilote de train, notamment précisément au LEB. C'est venu quand ? C'est toujours été présent ?
Alors, il faut dire déjà une chose, c'est que mon rêve de gamin était toujours enfoui au fond de moi. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, eh bien, c'est en 2010 que j'ai eu ce déclic. Je me trouvais à Échallon et j'ai vu arriver sur un camion la nouvelle rame du LEB. Et je me suis dit, tiens, ça, tu dois piloter. C'est parti comme ça.
Un challenge.
Mais c'est parti comme ça. Et grâce à mes relations professionnelles avec la direction du LEB de l'époque, cette envie s'est au fil du temps concrétisée. Je me souviens toujours d'une discussion avec le directeur du LEB de l'époque qui m'a dit « Ah, dis donc toi, t'as l'air sérieux ?» Puis j'ai répondu « Oui, je crois. » Et ça a commencé comme ça. Alors, c'est vrai que ma formation, elle a été atypique, ça c'est sûr, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais aucune idée.
Tu avais d'ailleurs fait l'objet d'une page dans 24 heures entière pour souligner ton départ à la retraite après 34 ans au sein de la police de sûreté et d'embrasser ensuite une nouvelle formation. Et j'ai toujours cet article dans mon attel.
Merci Sylvain.
Tu vois comment ?
Tu étais donc l'un des collègues qui était d'accord avec mon choix. Mais j'en ai eu d'autres qui m'ont dit que j'étais un gâche métier.
Ouais, justement. Comment ils ont réagi, soit ton entourage ou tes ex-collègues, ta famille, par rapport à cette annonce ?
Juste avant, j'aimerais quand même juste revenir sur la chance que j'ai eue d'avoir une formation personnalisée. Parce qu'effectivement, j'ai eu une formation pour moi, tout seul.
Ok.
Il faut le dire.
Ils ont mis ça en place pour toi. Ça valait la peine aussi, en même temps. Je crois que c'était,
alors, à 58 c'était légitime. À 58 ans, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. Et j'ai suivi des cours avec le chef d'exploitation. Et ces cours, j'étais quand même toujours inspecteur à la police sûreté vaudoise. Et je les faisais le soir, 2-3 fois par semaine, et j'ai suivi ces cours avec le chef d'exploitation et avec le chef d'atelier pour tout ce qui était machine et frein. Voilà. Ça, c'était vraiment une chose
Mais c'est vrai que pour revenir important. Sur ce que tu disais avant, Eric, en disant, est-ce que tu étais de ceux qui, finalement, m'appuyaient et comprenaient ma décision et par rapport à d'autres qui avait une décision, ou en tout cas un sentiment opposé par rapport à une activité remplie, et qu'au terme d'une activité, refaire autre chose, à la retraite, c'était pas juste une occupation, c'est ça peut-être la différence. C'est pas juste s'occuper à sa retraite, c'est de rembrasser une activité professionnelle avec une formation, des cours, un certificat et ensuite d'avoir pleinement un nouveau métier comme celui qui embrasserait ce métier aujourd'hui. Mmh. Et peut-être c'est ça où certains n'ont pas compris cette envie d'enfance et puis de réaliser ce rêve d'enfant. Mais je me rappelle que c'était assez partagé au sein de notre activité professionnelle. Tout à fait. Mais tu as raison, c'est juste, il faut le souligner.
Et effectivement, mais
ben c'était partagé.
J'ai choisi.
Mais tu m'avais dit aussi, ben, puisqu'on se côtoie régulièrement dehors de l'activité maintenant que tu es à la retraite aussi, qu'au travers d'une conversation, que ta décision était importante en termes d'investissement personnel, et puis que dans ce sens, tu n'avais pas forcément, quand tu avais fait ce choix, mesuré l'intensité de cette formation qui n'est pas si simple que ça.
Non, alors pas du tout. Je n'ai pas du tout mesuré cette intensité. Parce qu'avec tout ce qu'il faut apprendre, mon Dieu, mais c'est pour moi, c'était pas facile. Pas facile au début. Bon, la théorie, c'est clair qu'il faut l'assimiler. C'est une théorie qui est propre au chemin de fer. On a un document qui s'appelle les prescriptions de circulation des trains, le PCT, où on a 15 chapitres. Je ne vais pas vous les énumérer parce que je ne m'en souviens plus, hein, c'est clair, ça fait quand même passé 5 ans que j'ai arrêté. Mais ça, ce n'est pas à piquer des vers. Et il faut savoir presque tout par cœur.
Ouais, sur les bords d'école, à 15 ou 20 ans, ça va, mais à 60...
58, c'est un peu plus
58, voilà. Ouais, presque 60, c'est un peu particulier, et puis c'est un peu plus compliqué, je veux bien croire.
Mais c'était l'envie. Et puis, vous savez, une retraite, ça se prépare, surtout à 58 ans.
Et puis en fait, Eric, combien de temps elle a duré cette formation juste
alors,
là, je suis sur la question qui... Voilà.
Alors, ça dépend si c'est pour moi ou pour des élèves qui suivent une classe. Parce qu'en fait, pour moi, comme je vous ai dit, ma formation, elle était atypique.
Oui.
Et j'ai commencé, si vous voulez, par, comme tous les pilotes d'ailleurs, un test psychologique. Ça, c'est la première des choses. Et si on rate ce test, si on échoue, eh bien, c'est terminé, on laisse tomber. Alors ce test, il te donne, on teste les capacités que va avoir le futur pilote de locomotive. Et puis, on vous donne un permis, qui est le permis B, si tout va bien, si vous êtes excellent, etc. Et puis après, un permis B100, c'est-à-dire qu'on peut piloter des véhicules jusqu'à 100 km/h et un B80 pour piloter des machines qui vont jusqu'à 80 km/h.
Okay.
Pour ma part, j'ai réussi un B100. C'est vrai que je n'ai pas été très très bon au niveau rapidité, parce qu'entre 25 ans et 58 ans ou 57 ans, ben, on est peut-être un petit peu moins rapide. Mais le B100 me convenait parfaitement puisque le LEB, la vitesse maximale est de 90 km/h.
C'est parfait.
Voilà.
C'est chapeau, nickel. Eric.
Ouais, vraiment, chapeau, Eric. Est-ce que ça te va si on passe ton premier choix musical qui est bien sûr Véronique Sanson avec chanson sur Drôle de vie ?
Sur ma Drôle de vie, oui. Alors avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Si vous voulez juste savoir, deux secondes avant, j'avais 17 ans quand Véronique Sanson a explosé. C'est ma fan. Hein. Moi, j'ai tout. J'ai tous les CD, tous les 33 tours. Elle est extraordinaire. Et puis ça, chanson sur ma drôle de vie, ben, je trouve que c'est super parce que en fait, la chanson est gaie, elle est légère, elle reflète un peu de l'insouciance de la jeunesse de l'époque. Et ça, pour moi, j'adore cette chanson.
Allez, Véronique, fais-nous rêver.
Pour une drôle de vie, j'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les zones, les autres totems, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi.
On est de retour dans l'émission La Vita è Bella sur Radio Carnaval. On est en compagnie jusqu'à 20h de M. Eric Geiger, avec qui on parle train ce soir, locomotive et surtout envie d'enfance. Sylvain ?
Oui, formation à 5 ou 8 ans. Très rapide et très dense. Alors Eric, je t'ai juste déjà posé la question tout à l'heure par rapport aux réactions. Comment ont accueilli tes proches? On a parlé un tout petit peu de tes collègues, ta famille. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette décision de reprendre un apprentissage à 58 ans?
Bon, écoutez, déjà mon épouse, Madeleine, elle sait très bien que je suis... ça fait...
Un moment qu'elle te connaît.
Un moment qu'elle me connaît, ça fait un moment que nous sommes mariés. Eh bien, elle sait que je suis un petit peu hyperactif. Voilà. Et puis, maintenant, comment ont pris mes amis, ma famille? Ils n'ont rien pu prendre parce qu'en fait, c'était top secret. C'était top secret. Je n'ai pas révélé mon projet.
À personne.
À personne. Ben non, parce qu'il fallait que je réussisse. Et ce n'était pas gagné d'avance. Donc, mis à part ma femme, personne ne le savait. C'est vrai que Madeleine, elle est extraordinaire. Parce que durant ma formation, je me souviens qu'on descendait sur la Côte d'Azur et elle me récitait les PCT, justement. Et elle me disait, je te pose des questions, mais je ne comprends rien à ces questions. Puis je disais, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est tellement spécifique qu'il faut presque tout apprendre par cœur. Voilà, c'est ça.
Elle a fait partie finalement de ta réussite, Madeleine.
Bien sûr.
Que je salue parce que je la connais beaucoup, je la connais bien, je l'aime beaucoup. Et puis je te salue, Madeleine.
Oui, alors Madeleine,
t'as toute mon amitié.
Je ne vous connais pas, mais alors chapeau bas à vous parce que je pense que votre vie a dû l'être. Ponctué de bien des surprises. Et puis, alors, génial d'avoir accompagné votre époux de cette manière. Vraiment.
Oui, je crois que magnifique. Je peux... chapeau bas à ma femme, effectivement. Mmh. Elle m'a toujours accompagné dans tout ce que j'ai entrepris.
Est-ce qu'elle a eu le choix? En même temps.
Alors, je ne sais pas, il faut peut-être lui poser la question.
Non, mais je pense que c'est passionnant d'aller au bout de ses envies, de ses désirs et de ses passions. Franchement, je crois que c'est difficile de résister à quelqu'un qui est auto-passionné. C'est sûr, c'était vraiment quelque chose de... Et puis, alors, du coup, on a un tout petit peu de temps. Alors, quand ils ont appris ce que tu avais fait, ça a dû être un feu d'artifice autour de toi.
Mes parents, oui. Alors, ils étaient... Et ma famille était très contente.
Ah, oui.
Surtout qu'en fait, comme j'ai eu cette formation atypique en théorie, ça n'a pas tellement gêné la vie de famille, ou notre vie de famille. J'allais après le travail, bosser mes cours. Et ça n'a pas tellement gêné la vie de famille. C'était bien.
Et ta maman Pierrette, comment elle a réagi?
Ah, ma maman, elle était contente de voir son rejeton qui réalisait un vieux fantasme.
Ah, trop bien.
Ah, c'est magnifique, Eric. C'est un grand plaisir de partager avec toi ce soir, vraiment. Et puis là, on arrive très très gentiment, mais assurément à 19h29 à des poussières pour avoir l'occasion de passer les pubs à l'heure. Merci Thibaut.
Bière du Boxer, brassée avec passion à Yverdon.
Amis de la cave des Gamenottes, découvrez lors de ce carnaval l'élégance de nos cuvées. Vin exquis, parfait pour toutes vos occasions, avec des arômes riches et une saveur inoubliable. Ils sauront vous faire danser vos papilles au rythme des Guggenmusik, tant au caveau qu'à la tonnelle. Et n'oubliez pas, pour jouer de belles notes, buvez des Gamenottes.
Franciolessa, votre solution locale en construction, rénovation et génie civil. Expertise et qualité depuis 154 ans. Pour vos projets de demain, contactez-nous au 024 454 23 25 ou par mail à info@francioli-sa.ch. Ensemble, bâtissons l'avenir.
Vous en avez assez de jouer les agents secrets à chaque fois que vous transportez des objets de valeur? Avec Atlas Sécurité, plus besoin de vous cacher derrière vos lunettes noires. Que ce soit pour protéger vos biens, assurer la sécurité de vos événements ou former votre personnel, Atlas Sécurité est là pour vous 24h sur 24 et 365 jours par an, partout en Suisse. Atlas Sécurité, la sécurité, notre métier.
Pour les amateurs de viande sur ardoise, ou si vous préférez la bourguignonne, vous pouvez encore hésiter entre les croûtes au fromage ou celles aux champignons. Et si la viande de cerf vous tente, pour faire votre choix et découvrir les autres surprises du menu, passez au Mont des Cerfs du mercredi au samedi de 11h à 22h et les dimanches de 11h à 16h.
On est de retour sur l'émission La Vita e Bella, 19h-20h, et nous sommes ce soir avec Eric Geiger, qui nous parle train et passion d'enfance. Eric, pour recommencer cette partie, est-ce que dans le cadre de la formation, notamment théorique et celle notamment pratique, est-ce qu'il y a des exercices avec des simulateurs?
Alors, pour le LEB, non. En tout cas, jusqu'à la fin de ma formation, en 2014, il n'y avait pas de simulateur. Par contre, pour les CFF, je sais qu'effectivement, les aspirants pilotes peuvent utiliser les simulateurs.
Merci. Quelles sont les exigences, d'après toi, qui a quand même cette expérience de plusieurs années de pilote de train au sein de... du LEB, si on devait mettre en avant deux ou trois qualités qui vraiment te parlent et qui sont importantes pour toi, quelles seraient-elles selon toi, ces qualités?
Alors les qualités pour être pilote, il faut tout d'abord, à mon avis, une très grande résistance au stress. Mmh. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. On est seul pour résoudre tous les problèmes sur la voie. Les pannes, les dérangements, par exemple, des barrières qui restent en bas. J'ai vécu ça, Je me trouvais à la gare d'Union Prix et voilà mon feu qui devait passer au vert, clignotait au rouge. Je me suis dit, purée, je regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'il y avait? Une voiture au milieu des barrières.
Mais non.
Et la personne était toujours...
Dans la voiture?
Dans la voiture. Alors c'est clair que je ne pouvais pas partir, hein, puisque mon feu rouge clignotait. J'aurais été, comme on dit dans le jargon, planté, c'est-à-dire que les mesures de sécurité faisaient que le train se bloquait. Il ne pouvait pas aller plus loin. Mais toujours est-il qu'on se dit, mais voilà de nouveau un problème. Et ces problèmes, on doit les gérer seuls. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On prend la radio parce qu'on a un langage radio qu'on doit savoir, aussi un petit peu comme à l'armée. Hein. Mm-hmm. Et puis, on avise la centrale, le chef circulation, pour lui dire, ben voilà ce qui se passe. Et normalement, si toujours le chef circulation arrive à relever les barrières depuis son poste de commande à Échalon. Mais des fois, ça ne joue pas parce qu'il y a des petits soucis. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit assurer le frein et puis c'est nous
c'est
qui allons avec une clé pour remonter les barrières sur place. Non, mais c'est des choses qui... Et il y en a tellement à raconter des comme ça.
Donc là, en l'occurrence, pour la voiture rouge qui était... Non, pas forcément rouge, mais la voiture qui était coincée, c'est toi qui as dû descendre ou bien non
Alors là, c'est moi qui ai dû descendre.
C'est toi qui as dû mettre le frein
pour remonter les barrières. Oh, et après, la personne, elle est partie.
Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Ah, mais c'était...
J'imagine,
c'était
hop, le frein.
C'était l'époque.
Sorti, allez hop.
C'était l'époque. Et oui. Alors, effectivement, avec toutes ces pannes, tout ce problème, eh bien, après, on a aussi des problèmes sur la ligne de contact. Alors, une autre anecdote. Heureusement, je n'étais pas seul. J'avais quelqu'un en cabine avec moi. Je descendais avec les vieilles machines. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Avec la toute vieille machine qui était du matériel 65. Vous voyez un petit peu ce matériel, hein. Un seul photographe, il faisait nuit, et on arrive à Étagnières, et tout à coup, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe ? Juste le temps d'arrêter le train, parce qu'on était à la halte d'Étagnières, et voilà que une attache de la caténaire avait lâché, pendait, elle a arraché carrément le photographe. Ouf ! Et bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes là, ouf, déjà. On se calme. Qu'est-ce qui se passe ? Tous les gens dans le train attendent. Qu'est-ce qui se passe ? Un seul pantographe sur les vieilles machines, donc impossible de repartir. Puis là, on se dit, le pantographe est arraché. La caténaire, est-ce qu'elle est tombée ? Est-ce qu'elle touche la caisse de la machine ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on annonce tout de suite au chef circulation de ce qui se passe, on est mort, donc on ne peut plus rien faire. Hein. Puis là, heureusement, la caténaire n'avait pas été arrachée. On saute sur le quai pour voir ce qui se passe. Puis là, ben, on annonce, on prend le micro, puis on annonce aux gens, écoutez, ben, voilà ce qui se passe. Problème, photographe arraché. Il vous faut quitter le train et continuer tranquillement à pied. Ou en faisant du stop. Parce que c'est clair qu'on ne pouvait pas demander à un bus de remplacement de venir tout de suite. C'était juste pas possible. Alors c'est là que j'ai vu passablement de monde faire du stop. Excellent. Pour aller travailler. C'est les aléas.
En t'écoutant, hormis les connaissances théoriques, mécaniques, techniques, c'est vraiment un élément, la résistance au stress, qui ressort vraiment de manière prépondérante. Et si les gens ne doivent pas sortir du train, bah, tu le dis... maintenant, les gens doivent sortir du train parce que le train ne peut plus finalement avancer et rouler. Mais s'ils ne doivent pas sortir, c'est quoi les consignes si d'un coup il y a un problème vraiment où les gens ne doivent pas sortir du train ?
Alors, on l'annonce au micro.
Bloquer les portes.
Les portes sont bloquées aussi. J'imagine pas forcément.
Alors, avec les nouvelles machines, oui, on peut bloquer les portes. Avec les anciennes, non. C'est juste pas possible.
Ouais.
Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez, même avec les nouvelles machines, une jolie petite manette de secours. Et si vous actionnez cette manette, les portes s'ouvrent. Mm-hmm. Alors, on avait fait, juste une petite parenthèse, on avait fait un exercice, là, j'étais plus pilote, mais on avait fait un exercice d'évacuation dans le nouveau tunnel qui passe sous l'avenue des Chalons. Et là, j'étais figurant. Alors, je me suis donné à cœur joie, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez pu voir la vidéo, mais je leur en ai fait voir d'une façon peu commune.
Et toutes les couleurs.
Et on disait, justement, ils nous disaient qu'on ne devait pas sortir, etc. Moi, je leur ai dit que j'étais claustro, je ne pouvais pas, il fallait que je sorte. Et j'ai actionné la poignée pour ouvrir les portes, ben voilà. Mais je me suis fait prendre par la police de Lausanne, manu militari, pour me faire sortir gentiment, parce qu'on m'a dit maintenant ça suffit. Et je me suis fait sortir tranquillement. Mais voilà, c'est, ouais, c'est,
Donc pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, il faut vraiment respecter les directives du chef de train.
C'est vraiment hyper important.
La dangerosité sur les voies, c'est vrai.
Là, on regarde effectivement les directives sont hyper importantes. À part quand on est claustro.
Non, même quand on est claustro. Et puis, la deuxième qualité, c'est la rigueur. La rigueur, ça, effectivement, la rigueur, j'en ai un petit peu, j'en ai même beaucoup, mais pas assez. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a déjà l'horaire. On est tenu mais par l'horaire. Hein, mais à la seconde près, on est normalement tenu par l'horaire. Ensuite, tous ces contrôles de sécurité qu'on doit faire chaque fois quand on prend une machine. Et puis, le sommeil. C'est clair qu'il y a le repos, on a des heures de repos à tenir, etc. Et l'alcool. L'alcool, zéro.
Il y a une grande rigueur, bien entendu, comme conducteur professionnel. Hein,
mais absolument, il y a, une très très grande rigueur. Et puis, la troisième, c'est la concentration. La concentration, ça c'est quelque chose, mais on n'a pas une seconde d'inattention. Avec la ligne du LEB, on se dit, oh mais cette ligne, elle est facile. Non, c'est 23 km le LEB, 23 km. 19 haltes et gares, des signaux à non plus finir, des passages à niveau gardés, non gardés. Il y en a de moins en moins hein, non gardés, mais à l'époque, il y en avait encore. Non, c'est quelque chose. Pour moi, ça a été, à mon avis, la chose la plus difficile. Même plus le temps de regarder une jolie fille. Mais c'était du grand n'importe quoi. Pour vous dire, au flanc, quand on arrivait au flanc, il fallait changer de machine. Alors c'est clair qu'on mettait la cabine en ordre, on devait changer de machine et aller de l'autre côté pour remettre la cabine en route. On avait 4 minutes. 4 minutes pour faire tout ça. Et là, il faut pas avoir de stress.
Il faut y aller.
Oui, parce que c'est les risques d'erreur.
C'est des risques d'erreur. Et puis après, il faut attendre que le feu vienne vert, etc. Non, alors, je vous dis, résistance au stress, rigueur et concentration, ça, c'est le plus important.
Eric, je me permets de continuer, puisque c'est toi qui as annoncé la couleur en parlant des filles et des femmes. Je crois qu'on constate avec grand plaisir que dans beaucoup de métiers de la conduite, que ce soit des poids lourds, des cars, des métiers d'immanuel et physique, qui encore quelques années étaient plus ou moins réservés aux hommes, il y a quand même de nombreuses femmes qui s'engagent dans ces activités. Est-ce que dans le monde de la conduite des trains, on constate également une augmentation de l'intérêt au féminin ?
Mais bien sûr ! Heureusement, d'ailleurs, on a besoin du personnel féminin. Et je dois dire qu'effectivement, c'est quand même plus accessible avec les nouvelles machines. Avec les vieilles machines, il y avait quand même des contraintes. Il y avait même avec les séries 30 que nous avions, on avait par exemple une personne handicapée. Eh bien, il fallait avoir une passerelle. Aller chercher cette passerelle, la sortir, la poser sur le quai, pousser la personne avec sa chaise roulante. Et ça, c'était quand même relativement difficile. Maintenant, aussi, avec le travail à temps partiel, c'est quand même devenu plus accessible, nettement plus accessible pour les dames.
Et puis, est-ce qu'il y a une demande aussi chez les jeunes, de la part des jeunes ?
Alors, je pense, oui.
Et alors, par contre, il y a peut-être plus de demandes que de places disponibles, c'est ça ou...
Je suis difficile, d'après toi. C'est difficile pour moi d'en parler, parce qu'en fait, ça fait quand même 5 ans que j'ai arrêté, mais des places, il y a plus de demandes que de places disponibles, oui, c'est vrai.
C'est ça.
Oui, alors, comme dans beaucoup de métiers, ces métiers où on a maintenant des jeunes femmes, où ça s'est démocratisé, effectivement, on voit beaucoup de chauffeuses poids lourds, trains et autres. Donc, effectivement, ça fait plaisir. Mais c'était vraiment très réservé avant à une élite d'hommes. Comme tu le soulignes, Eric, c'est vraiment bienvenu de voir ceci. Effectivement.
Eric, est-ce que ça te va si on passe à ton deuxième choix musical qui est Ces grands corps malades ?
Mais volontiers, oui.
Avec nos plus belles années.
Oui, sorti en 2021. J'aime beaucoup cette chanson, c'est de la mélancolie, c'est de la nostalgie. Et c'est vrai que, pour moi en tout cas, le temps passe. Et plus on vient vieux, plus ça va vite. Mais ce qu'il faut se dire, il faut garder le moral. Chaque période de la vie amène immanquablement son quota de joie et de bonheur. Et il faut vraiment profiter de l'instant présent. Carpe diem.
Quelle belle parole.
Merci Eric.
Même si c'est tentant de fuir le présent, s'il te plaît, ouvre les yeux.
Prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. D'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années?
Je la mêle au présent, c'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
Après cette très belle chanson, on est dans la dernière partie de l'émission La Vita è Bella avec Eric Geiger, avec lequel on parle train et souvenirs d'enfance. Eric, pour cette dernière partie, au sujet de ta formation, quelles sont les compositions que tu peux piloter? Autrement dit, la formation est-elle liée au type de train et ou à la ligne sur laquelle le train circule?
Alors oui, bien sûr, la formation est totalement liée au type de machine. Pour ma part, j'ai eu la chance de piloter les trois machines qui étaient en service régulier sur le LEB. Donc j'ai été formé sur ces trois machines. Non, je dirais peut-être sur les quatre, parce que en fait j'ai conduit trois fois, juste avant que je parte en 2020, les toutes nouvelles machines qui venaient d'être mises en service, ce qu'on appelle les 60 actuellement. Une Rolls, franchement une Rolls. Par contre, alors effectivement, il y a des connaissances sur ces machines qui sont énormes. Et puis, il y a les connaissances aussi sur la ligne. La ligne, il faut tout connaître. on est obligé de connaître tous les signaux, on est obligé de connaître les aiguillages, on est obligé de tout connaître. Et là, je peux éventuellement vous parler de deux exemples. Deux exemples que j'ai, qui, par exemple, l'aiguillage. Vous me dites, ou Sylvain, tu me dis, j'ai vu un aiguillage. Mais je te dis, c'est une aiguille d'entrée, c'est une aiguille de sortie, c'est une aiguille talonnable, par exemple. Et ça, il faut tout savoir. Et dans la partie générale, je reviens, des PCT, on a 150 termes à peu près à savoir par cœur. Donc, il y a pour 150 termes une définition propre et il faut les savoir par cœur. Et quand j'ai passé mes examens théoriques, c'était pas du QCM. Il fallait tout écrire. Je vous explique pas. Plus de 4 heures, j'ai passé à écrire. Mais ça a joué. C'était bien. J'ai réussi.
Alors, pour ma part, moi, je garde un excellent souvenir de ton avant-dernière course, Eric, puisque tu m'avais invité et demandé si je voulais bien participer et t'accompagner dans la cabine. Après une demande officielle, je le précise, j'en garde un excellent souvenir de cette course avec toi, juste avant ton départ à la retraite. Quelque chose de très touchant. Et puis, ça me fait plaisir de souligner cet élément-là avec toi ce soir, parce que ça reste une très 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 belle sortie qui était de bonne heure le matin, mais vraiment d'être dans la cabine d'un train, même si certains peuvent dire oui c'est le LEB, mais honnêtement, très beau voyage de courte durée, mais un très très bon souvenir, et je te remercie encore pour avoir fait cette proposition.
Merci. Alors juste une petite anecdote encore, parce qu'on en a,
bien sûr,
rapidement,
avec plaisir, avec plaisir.
Mais à l'époque, le chiffre de circulation avait une vision depuis Échallon jusqu'au Flon. Mais par contre, depuis Échallon jusqu'à Bercher, il était dans le noir complet. Ce qui fait que on était non seulement au niveau connaissance de lignes, mais connaître les passages à niveau, garder, non garder, etc., les signaux et tout, mais on devait connaître aussi les lieux dits. Parce que si tout d'un coup on tombait en panne, il fallait pouvoir lui dire où on était, parce qu'il ne voyait rien. Et à Bercher, par exemple, c'est nous qui faisions notre sortie. C'est-à-dire que c'était nous, à l'époque, bien sûr, tout a changé. Maintenant, tout est automatisé. C'est magnifique. La ligne du LEB, elle est impeccable. Et elle va continuer, parce que c'est une évolution quasi permanente. Mais toujours est-il que là, on faisait notre sortie nous-mêmes. Et on mettait notre signal au vert, ce qui fait que ça nous donnait possibilité de partir. Et le collègue qui était en face et qui arrivait à Sugnan, lui, il était bloqué et il ne pouvait pas continuer. Donc ça, c'était au niveau sécurité. Mais c'est juste pour la petite histoire, quoi.
Mais autant dans la formation qu'ensuite, quand tu as exercé ce métier de pilote de train, est-ce que tu as toujours à l'esprit, est-ce que les pilotes ont à l'esprit cette responsabilité d'avoir des voyageurs et qui sont responsables finalement d'une composition des trains avec des voyageurs? Comment ça se passe? Est-ce que dans la formation, il y a un élément qui est lié à ça? Et puis, est-ce que tu y penses tous les matins, les après-midi ou le soir, quand tu prends ton train en disant « j'ai des voyageurs que je conduis ».
Oui, alors bien sûr qu'on pense qu'on a des responsabilités, qu'on a des voyageurs, qu'il faut les amener à bon port. C'est vrai que mais je ne veux pas dire que ça devient la routine, parce que la routine, c'est l'ennemi, mais ça devient des habitudes. Et on n'y pense plus, finalement, qu'on a du monde, qu'on a 200 personnes derrière nous. Donc pour ça, c'est comme tous les métiers.
Mmh. J'imagine au début, c'est une sacrée pression, et puis ensuite, c'est quelque chose qui roule.
Exactement, c'est quelque chose qui roule, sur les rails.
un réel métier passion? Autrement, on ne fait pas ce métier si on n'a pas la passion des trains.
Mais effectivement, je ne pense pas que si un élève pilote n'a pas la passion, il ne va pas pouvoir continuer longtemps. Ce n'est même pas une passion, c'est à mon avis une vocation.
Oui, alors ça, je veux bien le croire. parce que quand même c'est une sacrée aventure, c'est une sacrée formation. Et puis c'est vrai, vu de l'extérieur, quand ben voilà, moi ça me touche, parce que quand je prends le train, voilà, hop, je monte dans le train, je prends mon billet, tac tac tac, boum, je m'asseye. Et puis bon, des fois j'y pense, parce que je suis souvent les horaires que je prends, je suis seule dans le train, puis je me dis ouais, quand même, hein, y a peu de monde, et c'est tout ce qui se passe au niveau de la machine, du conducteur, etc., etc. Et je me dis chaque fois c'est quand même c'est génial, on arrive du point A au point B et ça se passe de toute manière régulièrement bien. Et de t'entendre, ça me touche, parce qu'effectivement il y a tout ce côté qu'on s'imagine que tout roule, en fait, effectivement. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est absolument incroyable.
Le citoyen prend un moyen de transport, mais il ne pense pas finalement à tout ce qu'il y a autour, et notamment aux pilotes, que ce soit un car, un avion, un train.
Exactement. Il y a toujours tout ce qu'il y a derrière, c'est énorme.
Effectivement, mais avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer, j'en ai rencontré, je crois que le principal, c'est l'information. Si on prend son micro, si on informe les usagers comme quoi on a un problème, qu'il faut patienter, etc., ça passe beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux.
Mm-hmm. Eh bien, Eric, encore juste quelques mots sur une toute dernière question avant de nous quitter et de passer le dernier titre et de remercier nos sponsors. S'il y avait des jeunes qui t'entendent aujourd'hui, et j'espère que c'est le cas, qu'aurais-tu envie de leur dire à ceux qui hésitent à embrasser ce métier ?
Que leur dire ? Si tu aimes les horaires irréguliers, l'imprévu, les voyages,
le stress,
les responsabilités, si tu es consciencieux, rigoureux, que tu as la santé, les capacités, que le milieu ferroviaire t'intéresse, alors vas-y, fonce.
Fais-toi plaisir.
Il y aura beaucoup d'avantages, ça c'est sûr. D'innombrables possibilités pour découvrir d'autres lignes, pour changer de compagnie, changer de canton, devenir chef mécanicien, expert OFT, Office fédéral des transports. Et c'est vrai qu'on a souvent, ou de temps en temps quand même, un expert de l'Office fédéral des transports qui vient nous accompagner pour voir si tout va bien, si on touche encore un petit peu.
Et les trains, quelle belle mobilité. On va finir sur ces paroles, Sylvain. Un grand, grand merci, Eric, pour ta présence et puis d'avoir partagé avec nous ces souvenirs, ces anecdotes. Et avant de nous quitter, Laiterie Fromagerie de Beaume et le Destock Factory Outlet d'Orbe, qui sont nos parrains, on les remercie chaleureusement.
Oui.
N'oubliez pas d'écouter Radio Carnaval sur 94.3. Et je passe encore une dernière seconde la parole, mais on accueillera après notre émission Fanchon et Stan. On leur souhaite une belle émission.
Oui, alors Eric, je crois que tu aimerais dire quelque chose encore.
Oui, juste quand même un ou deux petits souvenirs à partager pour vous, pour les auditeurs. Quelque chose qui est assez rigolo, c'est que quand on prend le premier train du matin et puis qu'il y a un brouillard sur la caténaire avec du givre, ben, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est l'enfer pour piloter ces trains, ils n'avancent pas. Ça, c'est déjà une chose. Ou alors, si vous avez une petite pluie fine, même à plat, ça m'est arrivé, à l'arrêt de Montétanche, pour ceux qui connaissent, c'est totalement à plat, je veux freiner, ouh, une patinoire. Heureusement, la dernière porte était à quai et les gens ont pu descendre. Mais au milieu du carrefour, je vous garantis, qu'on n'emmène pas l'argent.
Eric, il est comme les trains. Une fois qu'il est lancé, il est inarrêtable.
Merci beaucoup, Eric.
De l'émission Fonchon et Stan. À tout bientôt. À demain.
À tout bientôt. À demain. Bye bye.
Chantier donne une cadence à tes pas, tu sais. force du funk. On...